Les sorties de la semaine, Laurent, on va commencer par un grand film signé Paul Schrader, The Card Counter. Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire, devenu joueur de poker, sillonne les casinos fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirque, jeune homme instable, obsédé par l'idée de se venger d'un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu'il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirque sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence. L'histoire d'une quête de rédemption impossible et un terrible voyage au cœur de la cruauté, celle de personnages voués à la tragédie. Entre chambre de motel et casino sordide au milieu, cet acteur extraordinaire, Oscar Isaac, économie de gestes, de paroles, dans une mise en scène sans esbrouf qui rappelle dans son atmosphère celle des meilleurs films des années 70, Laurent.
Mais oui, d'ailleurs, comment oublier que Paul Schrader, c'est le scénario de Taxi Driver, entre autres de Martin Scorsese. On y pense beaucoup dans le portrait de cet individu en quête de pureté, hein, évidemment. Donc il y a une vraie filiation, vous le disiez, c'est tout à fait exact, avec un acteur en majesté, comme dans les films de Scorsese, aussi, bien évidemment. Et puis, à quoi on reconnaît un cinéaste? Ben, peut-être aussi à ses obsessions. Et moi, j'ai vu une obsession des mains dans ce film incroyable. Les mains des joueurs de cartes, mais aussi en miroir négatif, les mains des bourreaux. Et puis, peut-être en positif final, les mains des amants. Ça, c'est extraordinaire, cette façon de suivre un film narratif à travers ce qui sera en peinture un gros plan, et ce qui est en cinéma un gros plan. Je trouve ça très très beau, et oui, c'est, alors là, l'année commence bien, on va dire, avec ce film de Paul Schrader.
Et cette idée de se rendre invisible dans chaque motel, sans dire par quel moyen.
Absolument.
Nos plus belles années, de Gabriele Muccino. Alors, à ne pas confondre avec le film de Sidney Pollack, le même titre en français. À ne pas confondre non plus avec Nos meilleures années, grand triptyque italien lui aussi, de Marco Tullio Giordana. Ça, c'est l'histoire de quatre amis racontés sur 40 ans en Italie, des années 80 à aujourd'hui, la chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours et surtout de leur amitié inspirée d'un autre grand film. Nous nous sommes tant aimés, les Torrescola.
Ben oui, il faut vraiment le confondre avec rien, ce film, sous peine de faire du mal aux autres. Hein, c'est évident, parce qu'il y a non seulement Scola, mais il se donne, pourquoi pas, allons-y gaiement, il y a aussi quelques références au Roma de Fellini. S'il vous plaît, c'est quand même pas rien. On est un peu stupéfait, d'ailleurs, de tant de références pour si peu de résultats, avec un effet de vraie fausse comédie romantique, bourrée de stéréotypes. Ah, que les amours étaient belles quand elles commencent. Ah, que l'adolescence était merveilleuse à l'époque. C'est plein d'une nostalgie factice. C'est effectivement avec des filiations qu'on a nous tant aimé aussi, bien sûr. Mais c'est proche, à mon sens, d'une espèce de racolage sentimentalo-nostalgique qui est vraiment pas ni très intéressant à suivre et qui, au contraire, génère un ennui mortel.
Ce qui était extrêmement bien traité, effectivement, dans le film de Marco Tullio Giordana, revoir ce film qui existe en DVD, qui est absolument extraordinaire, Nos meilleures années. Pardon de profiter de ce film-là pour en parler, d'un autre.
Il vaut mieux.
Voici le premier film de l'Islandais Valdimar Johansson, s'appelle Lamb. Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Une histoire basée sur des contes populaires. Le début de Lamb est très intriguant, dommage que par la suite un nouveau personnage vienne transformer et même dévier l'intrigue qui perd alors tout son souffle.
Oui, alors on dit pas, malgré le titre du film, enfin bon, chacun fera son idée, mais enfin la brebis n'est pas loin. On avait déjà eu Ozon avec un petit enfant qui avait des ailes. Bon, cette fois c'est autre chose, c'est quatre pattes. Non, franchement, c'est assez ridicule parce qu'il y a quand même une volonté chez l'auteur-réalisateur de parler de la vie, de la mort, du deuil, de l'amour maternel, etc. Donc c'est quand même pas des questions anodines et tout ça est fait avec une lourdeur démonstrative, avec des images qui pèsent des tonnes, certes dans des sublimes paysages. Oui. Et alors, ne parlons surtout pas, pour ne rien divulgâcher, de la fin, mais alors ça vire au grand guignol et au grand grotesque, hélas. Non, c'est vraiment dommage, il y a éventuellement un propos, mais il n'est pas tenu du tout.
Et une grande interprétation de Noomi Rapace.
C'est vrai.
Qui fait un beau retour. Next Door, c'est un film réalisé par un acteur, Daniel Brühl, dans lequel il joue, d'ailleurs, à Berlin. Un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s'apprête à décoller pour Londres où l'attend le casting d'un film de super-héros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu'il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Une rencontre préméditée qui va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Que vaut ce film d'acteur ?
Alors, oui, c'est ça, c'est un film d'acteur. Alors, donnons acte à Daniel Brühl de faire quelque chose qui n'est pas facile, d'autant plus qu'il charge encore plus sa barque en jouant lui-même un acteur. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un effet de miroir, évidemment qu'il nous parle de lui-même, alors en essayant d'être le plus... En retrait possible, enfin en retrait de lui-même, en surplomb de lui-même, donc mais finalement c'est relativement complaisant par rapport à sa carrière. Il y a des sortes d'autocitations qui laissent un assez grand malaise. On aurait préféré qu'il s'écarte de son propre parcours, de sa propre carrière. C'est pas un film sur le paradoxe du comédien, c'est juste un film sur effectivement un personnage qui rencontre un voisin inquisiteur et qui va essayer de savoir ce que c'est sur lui son voisin inquisiteur. La mise en scène est d'une platitude abyssale et le pire du pire, c'est qu'effectivement, eh ben cet acteur qu'on aime bien, il faut le dire, hein, qui a fait de Goodbye Lenin, enfin qui a fait des choses tout à fait intéressantes, le jeune Marx par exemple, etc. Ben il ne tire rien de lui-même, c'est-à-dire qu'on a aucun plaisir à le voir jouer, on n'a pas un grand jeu déployé d'acteur, c'est très dommage.
Les Enfants du Soleil de Majid Majidi à Téhéran, Ali 12 ans et ses amis enfants des rues sont embauchés par un criminel dangereux pour trouver un trésor enfoui caché à proximité d'une école. Pour y accéder, les enfants doivent s'inscrire à cette école et grâce à l'éducation, ils commencent à découvrir un trésor différent, un avenir, un avenir peut-être différent. Ce sont de vrais enfants des rues engagés par le réalisateur, d'où l'authenticité de leur interprétation. Un nouveau néo-réalisme, 70 ans après Le voleur de bicyclettes, c'est une sacrée référence. Et un film rend à montrer à tous les enfants.
Oui, c'est vrai. Alors il faut dire que c'est le film que l'Iran va envoyer aux Oscars, oui, 2021. Donc bon, c'est alors que c'est un film qui ne mâche pas ses mots ou ses images sur l'Iran. Hein, il faut le dire quand même. On est étonné en ce moment. Qu'est-ce qu'on se régale de voir des films iraniens, Razoulov, Faradi. Enfin vraiment, on a comme ça des tas de propositions différentes. D'ailleurs, celle-là l'est, hein, par rapport au cinéaste que je viens de citer. Et c'est effectivement, on songe, vous le disiez à un film, on peut changer à Buñuel aussi, ouais, dans Los Olvidados. Enfin, vraiment, il y a une volonté de s'inscrire dans le réel, et dans le réel dur, dans le réel qui cogne, dans le réel qui fait mal, qui est très très belle, avec cette espèce de discours sur l'impuissance et l'amertume des choses. C'est très très beau.
Vraiment. Avec un magnifique acteur pour jouer un,
oui,
professeur.
C'est vrai.
Belle, c'est un film d'animation de Mamoru Hosoda. Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père, mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante.
Oui, absolument. Alors Hosoda, ben c'est l'après Ghibli et l'après Miyazaki du cinéma d'animation japonais. Et on peut dire qu'on est gâté parce que c'est plein de belles choses. Il y avait eu Mirai, notamment, auparavant, Mirai, ma petite sœur, qui était formidable. Alors c'est d'après lointainement le roman de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. J'adore ce nom. Donc La Belle et la Bête. C'est évidemment, il y a des tas de référence à Cocteau et Disney, parce qu'on ne peut pas refaire La Belle et la Bête sans référence à Cocteau et Disney, mais c'est pas du tout lourd. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'une part cet univers virtuel, évidemment en image de synthèse, et d'autre part, vous le disiez, cette vraie vie de cette jeune fille qui, elle, est en dessin animé traditionnel. Hein. Donc il y a ces deux formes que le Hosoda manie avec magnificence. L'univers virtuel, il est aussi toc que extraordinaire à voir, et avec une sorte de morale qui est tout à fait intéressante, qui n'est pas du tout poser l'un à l'autre, mais de dire que c'est précisément par une sorte d'avatar dans cet univers virtuel incroyable que malgré tout, la jeune fille va se réaliser, malgré tout, elle va traverser les miroirs et aller vers sa vraie vie. Donc c'est vraiment passionnant. On disait que le film précédent iranien est à voir avec des enfants, celui-là aussi, manifestement.
Il nous reste 30 secondes pour deux films. Bien sûr, rappeler Tromperie d'Arnaud,
oh oui,
du Péchin qu'on a,
mon Dieu,
déjà largement évoqué.
Ou combien.
Et la trilogie d'Apu, Laurent, La Complainte du Sentier, L'Invaincu, Le Monde d'Apu, de Satyajitray.
Mais oui, tout à fait. L'ancien assistant de Renoir sur le fleuve, et puis inspiré aussi de Dickens avec un mélange de lyrisme et de réalisme proprement incroyable. Il faut voir et revoir la trilogie d'Apu.